Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous quotidien de Radio Foot International sur RFI, bien sûr. Nous commencerons aujourd'hui par une célèbre panthère qui tire sa révérence. Pierre-Emerick Aubameyang annonce sa retraite internationale à 32 ans. PEA ne défendra plus les couleurs du Gabon. Quel est le bilan de ses 73 sélections avec l'équipe nationale ? Les Aigles, plus forts que les Écossais des Glasgow Rangers. Francfort a remporté hier soir sa deuxième Ligue Europa au terme d'une finale qui s'est décidée au tir au but. L'un des héros du soir est le gardien de but allemand Kevin Trapp. La finale de la Coupe de la CAF demain soir au Nigeria. Elle opposera le club sud-africain des Orlando Pirates et le club marocain de la RSB Berkane. Présentation d'une confrontation orchestrée par l'arbitre zambien Jani Sikazwe. C'est à préciser. Bonjour Patrick Juillard.
Bonjour Annie, il faut être à l'heure avec cet arbitre, c'est important. Hein.
Effectivement, et bonjour David Lortolari.
Bonjour Annie, bonjour à tous. À la radio, il faut être à l'heure en général, je crois,
hein, Patrick. N'est-ce pas ? Il est toujours à l'heure, il arrive même en avance, je fais des confidences. Bonjour
c'est
Benjamin.
Bonjour Annie, bonjour à tous et à tous.
Tout va bien ?
Oui, très bien. Très bien.
Merci. Et toujours content de vous recevoir ici dans notre studio. Alice Ménard est à la réalisation. Pierre Guérin m'a aidé à préparer l'émission. Radio Foot, c'est parti.
Bon, garde à la surface de réparation, contrôle. But. Et le but.
But d'Aubameyang.
Sur ce contrôle et cette frappe sans doute ratée de Denis Bouanga, 1-0 pour le Gabon face à la Guinée-Bissau et c'est Aubame qui marque.
Aubameyang lancé dans la profondeur, Pierre-Emerick Aubameyang qui est passé et cette fois-ci qui vient tromper la vigilance d'Akram El Hadi. Un but partout entre le Soudan et le Gabon.
Pierre-Emerick Aubameyang bien sûr. Il va s'élancer, en tout cas pénalty indiscutable évidemment. Le voilà qui s'élance, Pierre-Emerick Aubameyang. Et c'est au fond. Le voilà qui égalise. Donc Pierre-Emerick Aubameyang.
Il a porté haut les couleurs du Gabon. Mais il a dit stop. Après 13 ans de fierté à représenter mon pays, je vous annonce que je mets un terme à ma carrière internationale. C'est ce qu'écrit Pierre-Emerick Aubameyang dans une lettre qu'il a transmise hier à sa fédération. Pierre-Emerick était une panthère de renommée internationale. Il est devenu au fil de ses 73 sélections le meilleur buteur de l'histoire de son équipe nationale. À 32 ans et surtout à quelques jours de match éliminatoire en vue de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, le fils de Pierre Aubame, un autre international gabonais, c'est son papa, annonce donc sa retraite. Le sélectionneur Patrice Neveu doit se conformer, sans oublier de remercier son capitaine au micro de Cédric De Oliveira.
On est obligé d'accepter la décision de Pierre-Emerick et on ne peut que le remercier et le féliciter d'avoir fait ce qu'il a fait pour la sélection gabonaise. Et Pierre-Emerick, c'est des meilleurs buteurs en Allemagne, meilleurs buteurs Arsenal. Bon, même si on a toujours à dire que parfois en sélection, tous ces grands joueurs peuvent parfois donner plus, on sait que c'était un joueur majeur de la sélection. Ses qualités de joueur, de buteur, et de partenaire aussi, parce que ce fut un capitaine qui m'a beaucoup apporté au cours de ces 3 années. Un garçon extrêmement agréable à manager. Donc oui, c'est un coup dur, mais on n'oubliera pas tout ce que Pierre a pu donner, bien sûr.
Après les remous hein, de la dernière CAN où il avait été exclu pour indiscipline, on s'en souvient, il avait attrapé le Covid, après il y a eu quelques problèmes, il a été exclu du groupe, il faut s'en souvenir, c'était pas du tout par Patrice Neveu, mais c'était par le président de la fédération, et c'est un groupe qui, sans lui, ira jusqu'en quart de finale quand même de cette CAN.
Huitième
de finale, pardon. Ils sont allés en quart la seule fois et c'était au Gabon. Est-ce que pour vous, malgré tout, Benjamin Mokanjo, c'est une retraite anticipée à 32 ans?
Oui, je pense que c'est une retraite anticipée. Je crois qu'il avait encore énormément apporté hein, pour le football gabonais. Mais comme il a dit dans son communiqué, il a mûrement réfléchi. Je crois qu'aussi l'épisode de la dernière CAN a eu raison de cette décision-là. Il a pris le temps de réfléchir, il a pesé le pour et le contre. Pour
même moi, si c'était peut-être un peu de sa faute.
Oui, quelque part. Mais moi, je trouve que c'est malheureux. C'est malheureux parce que pour avoir suivi un peu le Gabon à la CAN, ils ont réussi à quand même faire une bonne compétition sans lui. Et je me disais qu'avec Aubameyang et ses qualités de buteur, il aura apporté un plus à cette équipe parce qu'il leur a manqué quand même à un moment donné ce joueur décisif qui pouvait mettre les buts. Mais on a quand même vu une belle équipe du Gabon qui a réussi à s'en sortir en écartant Aubameyang et Lemina. Donc, je crois que quelque part, même quand on suit un peu le communiqué du coach, il le regrette, mais il sait qu'il est quand même capable de fédérer, après Aubameyang, une équipe et constituer une belle équipe qui va pouvoir rivaliser, déjà se qualifier pour la prochaine CAN et peut-être réaliser un bon parcours en Côte d'Ivoire.
Patrick, c'est, disons que l'après Aubameyang avait déjà commencé avant cette lettre.
Voilà, Benjamin a tout à fait raison. Entre les lignes, on voit que Patrice Neveu n'est pas aussi catastrophé que s'il avait perdu un joueur absolument incontournable sans lequel il ne peut rien faire, ce qui n'est plus le cas. C'est-à-dire que cette CAN, c'est probablement la meilleure CAN que le Gabon ait fait de son histoire à l'extérieur, hein, si on accepte les CAN organisées par le pays. Et ils ont été absolument fantastiques d'état d'esprit, de sens collectif.
De jeu aussi, vous vantiez leur jeu pendant la compétition.
Absolument, il y a des individualités qui se sont révélées grâce à ces absences, entre guillemets, puisque un joueur comme Aaron Boupenza a montré toutes ses qualités, tout son punch en attaque. Il n'était pas sûr de jouer si Aubameyang avait été là. Denis Bouanga, qui est un joueur clé, lui aussi a peu à peu cédé sa place à Alevina, le joueur de Clermont-Ferrand. On les a vus vraiment endosser le costume de leader offensif avec beaucoup de talent. Et Aubameyang, on lui reproche aussi, au-delà de ce qui s'est passé pendant la CAN, des sorties nocturnes, alors qu'il était supposé être garder la chambre pour des raisons de contamination par le Covid. Bon, au-delà de ça, on lui reprochait parfois un comportement un petit peu, même si c'est quelqu'un de sympathique et d'apprécié humainement par les autres joueurs, mais les dirigeants et souvent les coachs lui reprochaient parfois de demander un petit peu des conditions particulières. Des passes droits.
Des faveurs, dit
des
Benjamin
faveurs. Et ça, à la fin, ça créait un petit peu un état dans l'état au sein du collectif des Panthères. Parfois, certains joueurs plus modestes dans la hiérarchie en prenaient un peu ombrage. Et on peut le reprocher aussi à Lemina. Et Lemina lui-même n'a pas apprécié ce qui s'est passé pendant la CAN. Il avait lui-même déclaré après celle-ci qu'il prenait sa retraite.
Fait comprendre.
Voilà, un poste assez clair.
Et d'ailleurs, il n'est pas rappelé dans la liste.
Et d'ailleurs, il ne figure pas dans cette liste et c'est un non-événement en réalité. Bon, la page est tournée. On a le jeune Alando Marcolino, fils de Fabrice, qui fait sa première apparition dans le groupe, qui vient de passer professionnel au Stade Rennais. Donc, le Gabon a du talent. Ouais. Aubameyang est le plus grand d'entre eux, mais il n'a pas toujours su en équipe nationale vraiment être le leader incontesté qu'il aurait pu être.
Vous diriez aussi retraite anticipée, il part un peu trop tôt, surtout que peut-être David en Afrique, c'est vrai que certains joueurs peuvent ou choisissent de jouer plus longtemps, alors peut-être pas autant que les Italiens dans leur propre championnat.
Vous pensiez à Emmanuel Adebayor.
Oui, par exemple, mais c'est vrai que surtout des joueurs qui sont les plus importants, en tout cas comme figure, on va dire.
Mais Annie, je crois que le mot principal de votre phrase, c'est le mot « trop ». Aubameyang a parfois été trop bon, parfois été trop dans l'excès, parfois été trop mauvais sur certains matchs. Je l'ai connu à Saint-Etienne, j'y étais moi-même journaliste à l'époque. Je l'ai ensuite, c'était un événement souvent dans le très bon, dans le très brillant, dans l'excès.
À l'époque où il est pris Marc-Vivien Fauré, c'est 2013.
2013, il y a 9 ans, jour pour jour d'ailleurs.
Des choses exceptionnelles, un joueur aérien, brillantissime, qui réussissait des choses improbables. Mais à l'inverse aussi, parfois déjà, des choses décevantes, on pourrait dire, quand on attend des choses normalisées. Pareil après à Dortmund. En équipe nationale, son bilan, il y a de très bonnes choses statistiquement. Il y a aussi des choses qui sont forcément des basses eaux.
Mais il y a un parallèle en fait entre ces deux carrières.
Mais oui. Et il ne faut pas peut-être attendre de la personnalité de Pierre-Emerick Aubameyang quelque chose de forcément normal. Il est forcément dans l'excès, très souvent brillant, très souvent pétillant et parfois aussi décevant pour des gens qui attendraient des choses plus normales, entre guillemets. Et je pense que si on veut considérer que ce départ, à l'âge qu'il a, est anticipé,
Sans doute, parce que il ne fait pas les choses dans la moyenne, Pierre-Emerick Aubameyang, en fait. Il y a souvent eu des excès en dehors du terrain, sur le terrain, et souvent en bien, quand même, il faut le dire aussi.
Bah oui, oui, Benjamin. Mais
malheureusement, on peut quand même, comme tu le disais, on voit très bien que même au vu de sa carrière, en dehors de sa carrière internationale, enfin au niveau de l'équipe nationale, dans ces différents clubs où il est passé, ça s'est toujours pas très bien terminé.
Oui, oui.
Donc,
pour ne pas dire mal terminé.
Pour ne pas dire mal terminé, parce qu'Arsenal, ça s'est pas bien terminé.
Il ne faut pas dramatiser non plus. Alors, je suis d'accord sur les
bah, il est quand même déchu de son titre de capitaine, Patrick.
Oui,
c'est quand même un blâme.
En revanche, à l'inverse, il débute toujours très bien. Ouais. Il s'adapte toujours très vite.
Très vite, exactement.
Blaugrana, Barça,
ses débuts sont fantastiques.
Buts, 13 buts en 3 mois.
Et il est j'étais en Espagne la semaine dernière. Il est très apprécié. Je parlais un peu aux gens. Il est très apprécié déjà. Ils l'ont adopté parce qu'il est sympa, parce qu'il parle.
Bah, il a déjà sa chanson.
Il parle bien l'espagnol. Il s'exprime facilement. Il est souriant. Et moi, il me frustre un peu. Bah, je pense qu'il avait les qualités humaines pour
c'est
être
ça.
Un joueur exceptionnel. Et il lui a manqué parfois un petit peu de
sérieux.
Peut-être de
sérieux,
rigueur,
non, de sérieux.
Parce qu'il est hyper sérieux. Je l'ai vu s'entraîner pendant. Parfois, après tout le monde, à l'époque de Gernot Rohr, sélectionneur, il restait longtemps après. Il s'entraînait à récupérer des ballons, à frapper, à faire des frappes à la JPP. Enfin, il bossait, mais. Pas de sérieux, mais parfois, il y a un côté un petit peu trop bon vivant, peut-être, pour être un très grand professionnel. Et ça le rend attachant, mais c'est un peu une limite.
Je me souviens quand il était allé voir un des défilés de mode. Alors, on sait que c'est sa passion, mais à Milan, ça avait mis en fureur Tuchel à l'époque.
Oui, c'est vrai qu'il y en a eu des chapitres quand même dans cette carrière. Des belles automobiles aussi, assez délirantes, assez uniques. C'est probablement un personnage aussi.
Des super baskets quand il était venu recevoir son prix ici.
Ah, oui.
On avait beaucoup ri, même avec lui. Hein.
Mais attachant à tous ses points de vue aussi.
Oui, bien sûr. Peut-être sa plus belle exposition internationale et continentale, Benjamin, c'est la CAN 2012. Le Gabon va se faire sortir assez tôt, mais lui va terminer comme co-meilleur buteur avec Didier Drogba. C'est quand même pas rien.
Ouais, ben c'est pas rien. En plus que
c'était à domicile.
C'est un peu ça qui me frustre.
C'était moitié à domicile. Parce que c'était aussi en Guinée équatoriale.
Mais eux, ils jouaient là.
Oui.
Ils jouaient au Gabon.
C'est ça qui me frustre un peu. C'est le fait que pour moi, il soit parti un peu plus tôt, qu'il n'ait pas réussi à amener son pays sur le sommet de l'Afrique. Parce qu'effectivement, il a les capacités de le faire. C'est un super bon joueur. Il a été même, je crois...
Il a été meilleur joueur.
Ballon d'or africain, c'est pas pour rien.
On dit pas ballon d'or, paraît-il, mais meilleur joueur africain.
Il a du talent. Et puis moi, je reviens encore sur le fait que j'ai vu une belle équipe à la CAN, une équipe qui a été constituée. Je me disais qu'avec cette équipe-là, avec autant de jeunesse, de joueurs qu'on ne connaissait pas, qui ont été révélés, il y avait quand même, avec un Aubameyang à son bon niveau, à son meilleur niveau, le Gabon aurait été plus forte.
Benjamin, vous qui peut-être sans doute connaissez les deux côtés, je dirais, de ces deux continents, c'est-à-dire jouer en Afrique, jouer en Europe, faire ses allers-retours et tout. Lui, il est né à Laval, quand son papa y jouait. Et finalement, il a été élevé en France.
Un vrai campagnard.
Et je me souviens même lui avoir demandé, dans cette fameuse émission, on lui avait dit, mais vous avez choisi la sélection, donc ça faisait déjà 3 ou 4 ans qu'il y jouait, hein, des Panthères. Est-ce que vous ne regrettez pas? Parce qu'il aurait peut-être eu une place en équipe de France, surtout à cette époque-là. Et il avait dit, pour moi, c'était très clair. Il y avait mon frère, il y avait mon père, donc c'était clair. Est-ce que des fois, il peut y avoir, et c'est ce qu'on reproche des fois aux binationaux, c'est peut-être une mésentente aussi sur le plan culturel?
Bah oui, parce que vous savez, quand vous êtes gamin, vous avez grandi dans un continent différent, vous n'avez pas la même approche que nous, par exemple, qui avons grandi en Afrique.
Exactement.
Mais c'est pour ça aussi, quelque part, il y a le rôle des parents. Je crois qu'Aubameyang, c'est son père, le fait que son père, je crois que quand il était gamin, il l'a amené tout le temps au Gabon, il était proche de son père, donc il voyait déjà ces réalités-là. Donc tout de suite, il s'est dit que si moi, demain, je deviens un footballeur, forcément, je vais aller jouer pour mon pays. Mais c'est différent. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop tirer sur les binationaux qui ne veulent pas y aller. Parce qu'ils n'ont pas cette réalité-là. Ils n'ont pas ça en eux. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui est inné. Peut-être c'est le fait que les parents aussi, quelque part, ne leur ont pas montré cette voie-là. Donc moi, je comprends tout à fait cela qui émet des doutes pour y aller. Et puis, je peux aussi comprendre ceux qui ont vraiment cette volonté, comme Obama, d'y aller, c'est ce qu'il a
il
fait.
Il était devenu
bien.
Une vedette quand même dans son pays. On se souvient quand il arrive avec ce trophée de meilleur africain, il revient au pays, il y a des milliers de personnes à l'aéroport, je ne me trompe pas. Hein,
ah oui, absolument, c'est une vedette. Et moi, je me rappelle la CAN 2017, donc la deuxième, cette fois que le Gabon avait organisé seul. partout dans Libreville, il y avait des grandes affiches. Les Panthères, c'était lui, c'était pas les autres. Et ça, c'est c'est une figure marquante quand même. C'est un grand. C'est incomparable à un Adebayor au Togo. C'est le seul footballeur du Gabon qui a atteint le niveau Ligue des Champions, qui a joué régulièrement dans des clubs qui disputent la Ligue des Champions. Il n'y en a pas eu d'autres. Et donc ça, il a fait franchir un cap à son pays à ce niveau-là, évidemment.
Selon vous, quel bilan vous tireriez de son passage dans cette sélection gabonaise? Finalement, est-ce que ce n'est pas plutôt positif pour les Panthères et moins bon, voire un peu négatif pour lui?
Moi, je dirais plutôt... positif pour lui en termes de but, parce que rappelons quand même qu'il restait le meilleur buteur de la sélection.
Un but sur tous les deux matchs à peu près, quelque chose comme ça.
Donc, même si on aurait espéré une sortie différente de ce qu'on a vécu. Mais est-ce que de notre côté, si moi je veux regarder dans l'autre sens, est-ce que finalement ça ne va pas permettre aussi au Gabon de constituer une équipe? J'ai dit bien une équipe, je précise bien équipe, le mot équipe
a un
sens.
On tombe dans le syndrome des stars et des autres.
Oui,
c'est ça.
Donc on constitue une équipe qui n'a pas de stars, mais vraiment qu'il y a un groupe soudé. Et vous savez, Annie, moi je suis encore mieux placé pour le savoir. Quand on veut gagner des compétitions, il vaut mieux avoir une équipe que d'avoir un joueur qui vous fait gagner un match.
Ah, vous vous rappelez de 2017?
Ah oui, bien sûr.
Non, mais j'abonde dans le sens de Benjamin. C'est vrai que Aubameyang, c'est un des joueurs c'est Alain Giresse qui a un petit peu remonté l'équipe du Gabon, qui s'appelait précédemment l'Azingo National et qui est devenu les Panthères. Et c'est lui qui, le premier, à la fin des années 2000, a vraiment monté une équipe, justement, en allant chercher des jeunes joueurs comme à l'époque Ekwele Manga et Aubameyang, entre autres, bien sûr, avec quelques anciens, Banangoy, Paul Kessani. Il a fait prendre cette mayonnaise qui a donné l'équipe de 2012, qui a été reprise à l'époque
avec Daniel Loisin,
par Gernot Rohr, qui était le coéquipier de Giresse au Girondins, mais qui n'était plus trop son ami, bref. Et qui a continué le travail. Et c'est le Mali de Giresse qui éliminera le Gabon de Gernot Rohr au tir au but. Quand on sait ce que représentent les tirs au but dans la carrière de Giresse, ben, y a toute une symbolique. Et je pense que c'est 2012, c'est le tournant. Je pense que si le Gabon élimine le Mali et va en demi-finale, ils peuvent peut-être prétendre...
À domicile,
avec le public, l'ambiance et tout, ils peuvent prétendre aller en finale. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer sur une finale. Mmh. Et ça, c'est peut-être le regret qu'ils peuvent avoir. C'est à ce moment-là, pour moi, que ça ne bascule pas tout à fait dans le bon sens. Et ensuite, il y a eu des problèmes un peu d'organisation de la fédération qui n'ont rien à voir avec les joueurs, qui ont un peu...
Et qui n'avantagent pas...
Et le championnat gabonais qui reste vraiment dramatiquement faible, qui n'avantage pas on ne cultive pas son réservoir, en fait. Et l'équipe est restée un peu autour du groupe qu'avait dégagé Alain Giresse à l'époque et ne s'est peut-être pas assez régénéré régulièrement.
Parce que Neveu a
retrouvé une fibre un petit peu de détection des talents à l'étranger. Et c'est un peu tard, malheureusement.
David, la fédération gabonaise se targue aussi et remercie Aubameyang d'avoir mis quand même le Gabon sur la carte de l'Afrique ces dernières années.
Oui, il y a deux arguments dans ce sens-là. C'est que si vous avez une équipe, sans tête qui dépasse mais que vous gagnez pas, on va pas considérer que vous avez beaucoup d'arguments. Et puis à l'inverse, oui, ça fait avancer peut-être en termes d'image, ça fait avancer en termes de reconnaissance, ça fait avancer en termes de souvenirs aussi qu'on se fabrique, la fédération, les gens qui suivent aussi derrière. Moi, je suis complètement en adéquation avec le message qu'ils transmettent actuellement.
Oui. Patrick, il y a une chose quand même, on parlait, et surtout là, à la dernière CAN, un peu du clan quand même Aubameyang qui était dans cette équipe nationale. Le papa était
team manager,
donc manager général. On avait le frère qui était intendant adjoint, lui qui était capitaine. C'est compliqué quand même, des relations familiales et des relations professionnelles.
C'est ce que je voulais un peu expliquer, c'est-à-dire qu'il y avait des conflits d'intérêts pour le père notamment, qui devait arbitrer parfois pas forcément dans le sens de son
du
fils.
Oui,
il devait davantage penser au groupe. Son fils qui parfois peut-être exigeait certaines choses sur des déplacements. Il y a eu parfois aussi des forfaits diplomatiques sur certaines dates FIFA où il préférait partir en vacances un peu plus tôt. Il est bon, il faut le dire. Hein, c'est pas une révélation énorme, mais donc ouais, c'est une famille, disons, qui a marqué aussi l'histoire du football gabonais, parce que le père...
Dans les deux sens.
Qui d'ailleurs jouait, qui jouait dans les années 90, notamment à l'OGC Nice, qui était aussi une personnalité très forte du vestiaire à l'époque. C'est des gens qui ont des âmes de leader, un petit peu, ces gens-là. Donc, c'est une dynastie qui est importante.
Et on en a besoin, mais...
Il faut savoir aussi... Après, c'était aussi à la fédération de nommer des sélectionneurs assez forts pour être au-dessus de tout ça. Ça n'a pas toujours été le cas non plus. Quand vous voyez que Camacho, pendant plus de 2 ans, il ne parlait pas du tout le français, ça n'aide pas tellement pour gérer un groupe d'un pays francophone. Hein.
Pour terminer, autour de Pierre-Emerick Aubameyang, Benjamin Mokanjo, malgré tout, l'avenir lui sourit. Il nous disait, Patrick, qu'il est déjà très adopté du côté du Barça. Quand même, jouer au Barça après Arsenal, c'est plutôt une belle carrière, un beau parcours.
C'est une très belle carrière. Hein. Elle n'est pas finie. Hein.
Justement.
Il continue. Avec Barcelone, il va pleinement se concentrer avec Barcelone. Hein, il a la Champions League l'année prochaine à jouer. Je pense qu'il va se fixer de nouveaux objectifs. C'est intéressant, mais pour vraiment terminer, il faut savoir une chose, c'est qu'on en a vu des joueurs qui ont décidé de partir, d'arrêter, de prendre la retraite internationale et qui sont revenus derrière. Donc attention quand même. Hein,
après,
c'est une probabilité. Ça peut revenir.
Effectivement, il n'a pas signé de contrat de renoncement définitif. C'est juste un souhait qu'il a exprimé. Bon, on ne sait jamais. Effectivement,
pour sauver la patrie.
Ça n'est peut-être qu'un au revoir.
Si un entraîneur qui revient lui propose un projet beaucoup plus intéressant avec des objectifs sur la table, attention, il peut changer d'avis.
Vous voulez dire si le Gabon se qualifie pour la Coupe du Monde 2026, par exemple?
Ça serait possible, parce que quel joueur ne rêve pas participer à une Coupe du Monde?
N'est-ce pas?
Ah oui.
J'osais pas le dire, ils l'ont fait pour moi. Bien sûr qu'il reviendra si les circonstances font que...
Comme Zlatan en Suède,
bien sûr.
Oui, et puis dans d'autres sélections africaines, justement. Hein, on a vu des joueurs qui revenaient à la demande des entraîneurs ou sur des matchs très particuliers. Bon, en tout cas, nous, on se souvient aussi de la CAN 2015 où on s'était entretenu, David Finzel et moi, on avait réussi à rencontrer Pierre-Emerick Aubameyang et c'était vraiment quelque chose de très... agréable. Merci champion donc Pierre-Emerick Aubameyang. Et nous on continue.
Attention à cette remise, Haribo.
Attention,
Haribo. Haribo est parti tout seul, Haribo. Ce sont les Rangers qui lâchent le premier coup dans cette finale. 1-0. Le centre. Oh, Raphaël Boré. Nous y sommes dans cette séance de tir au but.
Und jetzt ist es an Raphaël Boré. Boré, also jetzt gegen McGregor. Zeig, der läuft an. 2-3 Schritte. Er schießt und er trifft. Europacup-Sieger in der Euroleague. Eintracht Frankfurt 2022. Herzlichen Glückwunsch, Eintracht Frankfurt. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn.
Alors, on a un traducteur dans le studio. Il s'emballait un peu, le commentateur, si je vous vois rire.
Oui, non, je rigole parce que herzlichen Glückwunsch, qui est, quand on dit félicitations, ça fait un peu... on éructe, quoi, en allemand. Et clairement, là, c'est le cliché absolu, quoi. Herzlichen Glückwunsch, ça veut dire bravo, bon anniversaire, félicitations, tout ce que vous voulez à la fois.
Alors, cette musique, hier, elle était en fait dans le stade de Francfort, que tout le monde chantait.
Oui.
Mais dans un stade où y a, les tribunes débordaient. Il n'y avait personne sur la pelouse.
Oui. Mais Annie, c'est bien de l'avoir rappelé. C'est l'un des événements, évidemment, de la soirée et de la saison et de ce club et de cette région, parce que c'est l'un des publics les plus fervents, les plus fidèles.
Ibrahima Traoré nous en parlait hier en disant que pour lui, c'est plus qu'au BVB. Le mur blanc est plus impressionnant que le mur jaune.
Ah, oui.
Lui qui était joueur, en tout cas.
Il y a un nombre de membres incroyable dans les sympathisants. Non, Francfort, vous allez au stade. Si vous êtes un enfant, il faut protéger vos oreilles, quoi. C'est très impressionnant, au même titre que le stade de Dortmund, Annie, auquel vous faisiez allusion, qui est plus grand, donc il fait aussi beaucoup de bruit. Francfort, c'est assez inégalable, oui.
Alors, les Aigles ont donc fini par être sacrés champions d'Europe, d'Europa, donc, comme on dit, puisque c'est la Ligue Europa, la deuxième, le deuxième titre européen, l'Eintracht Francfort, alors on peut dire dans la torpeur andalouse, là aussi, il y avait beaucoup de supporters.
Oui.
Ils étaient nombreux, donc, à Francfort pour assister au match à distance. Et c'est la deuxième fois que ce club inscrit son nom au palmarès de la compétition. Bon, la première fois, c'était en 1980, ça s'appelait pas Ligue Europa, ça s'appelait la Ligue
UEFA.
Coupe de l'UEFA, mais c'était la même compétition. Ils sont attendus en fin de journée, là, à Francfort. Alors, dans les rues de la ville natale, n'est-ce pas, de Goethe,
oui.
Un défilé de 3 heures est prévu. Ça va peut-être durer plus.
Oui, parce que c'est assez démesuré, c'est vrai. Il y a eu un tweet de la compagnie de chemin de fer nationale allemande un peu avant le match qui disait « Si ce tweet recueille 750 000 likes, on offrira le voyage à tous les supporters. » Pourquoi 750 000 ? Parce que c'est le nombre d'habitants de Francfort. Et ça veut simplement dire, en creux, que tout le monde parlait de ça ces derniers jours. C'est un événement dans un club comme celui-là, Annie, qui a une culture européenne. Vous parliez de 1980. Il y a eu l'épisode malheureux contre Chelsea en 2018, je crois, l'été 2018 ou 19. Non, 19. Cette élimination en demi-finale au tir au but. Et Francfort a une âme européenne telle que, même quand on délaisse le championnat comme cette année, ils sont en milieu de tableau, il y a cette espèce d'esprit qui va les accompagner et les pousser en Coupe d'Europe.
En tout cas, la finale est allée donc jusqu'au tir au but. Les joueurs, cependant, y ont cru jusqu'au bout. Et c'est ce que dit le latéral droit malien, Almami Touré, au micro de Canal+.
Un moment incroyable. On ne s'imaginait pas aller aussi loin. Et là, on l'a remporté. Donc, on est super contents. Et moi, je ne réalise même pas encore. Hein, mais c'est un truc de fou quand même. On n'abandonne jamais. On a pris un but. On a toujours continué à travailler ensemble. On a réussi à inverser la tendance. Et on est content d'avoir remporté cette victoire.
En assistant à la finale, Benjamin, est-ce que c'était une victoire logique, finalement, du club allemand, hier soir ?
Logique,
c'était
pas forcément.
1-1 au bout du temps réglementaire.
Je trouve que c'était assez équilibré, le match était assez équilibré. On a vu en face, il y a eu deux gardiens qui ont fait les arrêts qu'il fallait. Moi, je me rappelle surtout à la prolongation, je crois en deuxième mi-temps,
ouais.
De prolongation, l'arrêt de Trapp.
Oui. Du genou,
ah oui,
là, hein,
pour moi c'était l'arrêt du match parce que c'est lui qui permet de maintenir son équipe dans le match et qui les envoie au tir au but et derrière il fait l'arrêt décisif. Pour moi c'était l'homme du match hier, hein. Et c'est vrai qu'on a assisté à un match assez ouvert, mais voilà, c'était un bon match. Ce que j'ai aussi aimé, c'est l'attitude de l'arbitre.
Ouais.
Qui n'a pas coupé le jeu, il n'a pas arrêté le jeu, il a laissé les occasions aller jusqu'au bout, il a laissé les situations. Et je trouve qu'on a quand même assisté à un bon match. Et pour revenir à Francfort, ben comme on disait tout à l'heure, ils ne réussissent pas une très très belle saison. Donc c'était la seule façon pour eux d'être européens l'année prochaine, c'était de gagner l'Europa League. Ils l'ont fait. Bravo à eux.
En plus, ce n'est pas en Ligue Europa qu'ils se qualifient, c'est en Ligue des Champions.
Ah, du coup, on va avoir 5 équipes allemandes.
Exactement.
Ah oui,
chapeau 1 en plus.
Ah oui.
Cette équipe, en tout cas hier, c'est vrai que son ambition, c'était de revenir dans une compétition européenne et de revenir au sommet, David, clairement, justement, de par cette culture.
Oui, c'est un peu des matchs qui tout doublent quand même, parce que s'il y a échec à la fin, vous n'avez plus rien. C'est-à-dire que la saison est
morose.
Comme
les Rangers, ça, malheureusement.
Et ce qu'il faut avoir à l'esprit quand même, le contexte est important, c'est-à-dire que changement d'entraîneur d'un Autrichien qui est parti à Gladbach, Hütter, remplacé par Glasner cette saison, et moi je les ai commentés depuis le début de l'année en Coupe d'Europe pour la télévision, ça a commencé pépère, quoi. Il a fallu plusieurs mois. Ça intéressera les gens qui s'intéressent à la croissance d'une équipe et à la naissance d'une équipe, d'un collectif. Il a fallu plusieurs mois pour que l'entraîneur soit compris, écouté, que les joueurs trouvent des automatismes. Et au début, c'était limite, quoi. Alors, les adversaires étaient modestes, donc ça passait. Et ensuite, à partir de janvier, on a senti une force. On a senti que même lorsqu'un joueur était absent, hier soir, c'est le chef de la défense, Hinteregger, qui n'est pas là, qui est blessé. On a l'impression que les remplaçants sont exactement au même niveau. Dans le cours du match, des joueurs qui sortent en milieu de terrain, Rode par exemple, remplacés par des joueurs que les gens connaissent très peu, Jakic, Rustic, qui ont un niveau similaire, qui ont un esprit de corps, un esprit de combattant dans le bon sens du terme. Et c'est une équipe. Benjamin parlait d'équipe tout à l'heure, Patrick aussi, parfois vous avez une vedette qui n'est plus là, qui s'en va, l'équipe se trouve, s'ouvre, c'est le cas, il n'y a pas
et
de grandes vedettes à Francfort.
Ils en ont perdu des grandes vedettes en plus.
André Silva, qui avait fait une super saison l'année dernière, l'attaquant, je crois qu'il avait marqué 29 buts, André Silva, en championnat. Sébastien Haller, ces joueurs-là sont partis. Silva à Leipzig, Haller en Angleterre. Et Francfort a retrouvé, il a fallu plusieurs mois, j'insiste, Annie. Et là, en fin de saison, ils sont à leur top. Ils étaient physiquement au point, c'était difficile, contre les Rangers qui ont mis aussi beaucoup d'impact. Et ils finissent le match, 2 heures de match épuisés, mais un tout petit peu peut-être au-dessus de leur adversaire, et c'est ce qui a fait la différence.
Et à un moment, dans ce parcours de qualification, leur prouesse quand même, Patrick, ça a été de battre le FC
Barça,
Barcelone,
oui, en quart de finale,
que tout le monde voyait déjà finaliste de cette Ligue Europa.
Oui, absolument. Ils ont surpris le Barça, ils les ont pris à la gorge et ils ont réussi à les sortir. Je crois que c'est important de souligner qu'ils ont totalement lâché le championnat.
Ouais,
quand on voit beaucoup de clubs français bazarder les Coupes d'Europe parce que on n'a pas l'effectif et ce qui est important, c'est d'être qualifié à la fin de la saison en Coupe d'Europe, je trouve que c'est une belle morale. Ça va rester, ils s'en rappelleront dans 10 ans.
Marseille a essayé
ans.
De faire ça, mais bon, on n'a pas réussi non plus.
Après, il y a un problème physique aussi de gérer l'effort sur la durée d'une saison.
Et l'effectif, oui.
Mais je trouve que sportivement, ils ont donné à leurs supporters des souvenirs pour 10, 20, 30 ans. Ça va se transmettre de génération en génération. Ils auraient fait demi-finaliste et terminé plutôt quatrième de Bundesliga. L'année prochaine, tout le monde l'aurait déjà oublié.
Là, donc ça faisait 42 ans, alors il fallait renouveler les souvenirs.
Oui, mais c'est très bien. Je trouve que maintenant, ils ont autant en un seul club, ils ont autant de Coupes d'Europe que tous les clubs français réunis. Tout est dit.
Et ils montrent leur travail. Alors, le héros de la soirée, celui qui a été le mieux noté par nos confrères, notamment de l'équipe, c'est le francophone et ex-Paris Saint-Germain, n'est-ce pas ? Encore un qui est sacré sur le toit de l'Europe. Kevin Trapp, impérial dans ses cages et qui a vécu, nous dit-il, une sacrée soirée.
C'est incroyable, c'est un rêve qui devient réalité. On a mis beaucoup d'efforts, surtout ce soir, c'était un match extrêmement difficile, très serré. Et quand on a pris le but, c'était un coup très dur. Mais on n'a pas arrêté d'y croire et de continuer à jouer. Le sentiment, ce qu'on ressent ce soir, c'est juste incroyable. On peut voir ça avec les supporters. C'est juste incroyable et je pense que ça, c'est le plus beau jour de ma carrière.
Le plus beau jour de sa carrière. Il en perd sa voix, mais c'est vrai que vous le disiez, Benjamin, hier, il a été impressionnant et il a largement contribué à cette victoire.
Ah oui, moi, je l'ai même dit sans le savoir. Hein. Pour moi, c'était l'homme du match. Il a fait les arrêts déterminants. Il a permis à son équipe, même à 1-0, hein, il pouvait prendre le deuxième but, de rester dans le match. Et derrière, ils égalisent et il fait cet arrêt à la prolongation et puis il sort le pénalty. C'est l'homme du match. On ne va pas revenir sur le fait qu'il est passé au PSG. Sinon, ils vont... Les supporters parisiens vont
faire une émission. On peut faire une émission d'une heure si on revient dessus.
Voilà, non, mais il est redescendu d'un cran et il s'est réépanoui dans un club où il s'était épanoui précédemment.
Oui, parce que c'est là qu'il avait été repéré et on le disait dans la lignée des gardiens allemands qui font carrière, les Ter Stegen, Neuer et tout ça.
Oui, mais justement, Annie, il va y avoir une pression populaire.
Quand il est arrivé à Paris, il avait un peu cette image, c'était ça. Quoi.
Oui, oui. Et là, le sélectionneur Flick va faire des choix pour la Ligue des Nations qui vient et pour la suite aussi pour le Mondial. Et évidemment, il va y avoir une pression populaire qui ne doit pas peser sur un sélectionneur, mais il revient dans la petite grappe des gardiens qui peuvent faire partie du groupe pour le Mondial.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'avait à l'époque de sa signature au PSG signalé comme un très fort gardien dans le jeu au pied. Oui. Et là, finalement, il fait un arrêt de gardien, mais du pied.
Du pied, ouais.
Parce que la frappe de Ryan Kent, un des meilleurs du côté des Rangers, le milieu gauche qui a fait beaucoup de dribbles et beaucoup de différences sur son côté, cette frappe-là, normalement, en fait, ça rappelle Gordon Banks quand il dit Pelé a marqué un but que Gordon Banks a enlevé. Là, c'est un peu pareil. Kent a marqué un but que Trapp a enlevé. Et ça, bon, ça reste, je pense, marquant dans une carrière. Après, c'est un peu cette finale. Elle montre aussi les limites de la Ligue Europa puisque les deux buteurs, Joe Haribo côté Rangers et Santos Borré, côté Francfort, ce sont deux joueurs qui ne joueront pas la Coupe du Monde. L'un est nigérian, l'autre est colombien. Donc ça montre aussi certains effectifs sont un peu en dessous de ce qu'on voit en Ligue des Champions où la plupart des joueurs nous éblouirons au Qatar en novembre prochain.
C'est pour ça que c'est la petite coupe d'Europe. On signale aussi que dans cet effectif, bientôt, David Lortolari, il y aura le Canari, Randall Colomouani.
Oui, il y a une, il y a une vraie dimension européenne continentale à Francfort. D'ailleurs, c'est la ville aussi, hein. C'est l'une des capitales financières du continent. Et il y a cette espèce de culture aussi de venir voir un peu dans toute l'Allemagne et au-delà des frontières. Ça m'étonne pas du tout. 13 matchs consécutifs, hein, j'ai vérifié parce qu'on avait des doutes avant l'émission. 13 matchs consécutifs sans défaite dans la compétition. Oui, Chelsea l'a fait aussi, je crois, en 2019.
Ouais, exactement.
C'est pas si fréquent. Hein.
Il y a pas mal de joueurs de Ligue 1, issus de la Ligue 1. Il y a Ndika, le défenseur. Oui. Mami Touré, qui était à l'AS Monaco.
Complètement.
Il y a même Jérôme Mbengue qui les rejoint aussi, je pense, pour la saison
exactement.
Prochaine.
Exactement. Et puis, à une époque, il y avait l'international algérien Karim Matmour aussi. Enfin, c'est un club qui a souvent eu des joueurs francophones dans son effectif.
Bah, en disputant la Ligue des Champions, c'est plus facile d'attirer des joueurs, de toute façon.
Et de les garder pour ceux qui ont eu envie d'aller voir ailleurs. Oui, effectivement. C'est un club, on parlait de progression, les joueurs qui sont arrivés, Evan Dika était déjà un bon défenseur. Là, il y a eu du bricolage sur cette finale par l'entraîneur parce qu'il manquait un pion essentiel. Pendant la saison aussi, Dika a joué un peu à plusieurs postes, parfois comme latéral dans une défense à 4, parfois comme joueur d'une défense à 3 qui était le plus fréquent. Et les joueurs progressent aussi, ont progressé, tous ceux qui ont été cités par Patrick ont progressé à Francfort.
Cette équipe de Francfort donc est 11e de son championnat cette saison. À noter, David, on a remarqué les clubs historiques de Bundesliga. Il y en a deux qui reviennent au moins dans cette première division allemande où il n'y a que 18 clubs. Ouais. C'est Schalke 04 qui avait été rétrogradé en deuxième division et le Werder Brême.
Peut-être trois si par hasard Hambourg devait gagner le barrage aller-retour ce soir et lundi prochain contre le Hertha Berlin. Là aussi, des publics fervents. À Brême, c'est un public exceptionnel. Et puis Schalke, c'est pareil, un superbe stade, beaucoup de public aussi. Donc ça, c'était bien aussi dans la dimension de cette finale hier, c'était cette ambiance autour du match.
Le Werder, dans les années 2000, c'était le principal rival du Bayern.
Bayern.
Hein.
C'est,
ah bah oui.
Et c'est un club qui a eu des joueurs exceptionnels comme Diego, Miku et j'en passe.
Et puis le Werder et Schalke, c'est des équipes, dans les années passées, qui étaient habituées aux compétitions européennes. Hein. Donc ça a été des grandes équipes en Allemagne. Bon, c'est vrai que la descente leur a fait énormément de mal. Maintenant, ils vont remonter. Il va falloir quand même constituer un effectif pour pouvoir y rester. Hein. Donc, voilà.
Voilà donc pour ce qui est de cette victoire de Francfort en Ligue Europa, en attendant évidemment la finale de la Ligue des Champions qui se déroulera dans une dizaine de jours à Paris. On continue parce qu'il y a une finale demain soir, quelque part en Afrique. Finale de la Coupe de la Confédération africaine, la finale donc de la Coupe de la CAF, une affiche donc avec les Orlando Pirates, dont vous avez entendu l'un des refrains chantant ce club d'Afrique du Sud, donc, et qui sera face à la RBS Berkane, club marocain. Une finale qui se disputera demain soir à 19h TU, et ça sera au Nigeria, dans la très moderne enceinte d'Ouyo. Patrick Juillard, on a failli ignorer où se déroulerait la finale, parce qu'on l'a su il y a 9 jours.
Oui, ça s'est bien tombé puisque Ouyo est un terrain neutre, mais sur le choix de la grande finale, ça pose un gros problème puisque le Ahly du Caire va jouer sur le terrain du Wydad Casablanca au complexe Mohamed V. Donc, la CAF s'est mise dans un embarras pas possible. Et
ils ont refusé le recours des Égyptiens.
Oui, parce que le temps, de toute façon, ne permet pas au tribunal arbitral du sport devant lequel les Égyptiens ont porté requête de répondre. Mais ils ont raison sur le fond, c'est absolument inéquitable. Et d'ailleurs, la CAF prévoit, à partir de l'année prochaine, de revenir à l'ancienne formule avec match aller, match retour sur le terrain des deux clubs, absolument. Et pour l'Afrique, c'est peut-être plus adapté parce que ça permet aux supporters de voir leur équipe. Peu de gens en Afrique si on est au Maroc ou en Afrique du Sud, peuvent se payer un voyage au Nigeria pour voir leur équipe. Bon, ouais. Ça, c'est une parenthèse qu'on referme, mais c'est une finale qui s'annonce très équilibrée. Ça rappelle un peu ce qu'on a dit sur l'Eintracht Francfort. Et ce sont deux clubs qui ont un petit peu lâché leur championnat, qui sont largués en championnat. Ils sont tous les deux septièmes dans leur championnat, alors que c'est des grosses cylindrées. Et ils sont vraiment mis focus sur cette finale.
Oui, alors à noter que les Orlando Pirates se sont qualifiés aux dépens de Al Ahly de Tripoli, c'est-à-dire
c'est
un club
même,
libyen. Oui, exactement. Et la RS Berkane, elle s'est qualifiée aux dépens du TP Mazembe.
C'est un gros morceau.
Hein, ouais, le club de Lubumbashi. Écoutons l'entraîneur du club marocain, qui est, on s'en souvient, l'ancien sélectionneur de la RDC, Florent Ibengue, ouais. Qui parle effectivement d'une rencontre 50-50.
Moi, je me mets pas du tout dans la peau du favori. Quand on arrive en finale, c'est 50-50. Et cette équipe d'Orlando Pirates peut aussi revendiquer le titre de favori parce que eux aussi ont déjà gagné une Ligue des Champions. On y va en termes d'équipe qui a envie de rapporter la coupe en faisant un match comme on fait à domicile, en tout cas. Ben, c'est un adversaire dangereux. Hein. Ils ont éliminé Simba, donc on a un petit peu les mêmes forces en présence. Une équipe qui joue avec des attaquants qui vont très très vite, qui utilise des systèmes un peu différents à chaque fois, un match qui va être équilibré. Là, il faut plus se poser des questions, quoi. On est en finale, c'est pas le moment de commencer à trop regarder notre adversaire. Il faut qu'on lui rentre dedans et qu'on n'ait pas de regrets et qu'on revienne avec la coupe.
Florent Ibengue au micro de nos confrères de Radio Mars. Florent Ibengue dit Benjamin 50-50. Alors évidemment, un entraîneur, surtout sur un terrain,
il va jamais dire qu'il est favori.
Surtout pas en finale.
Surtout pas en finale. Que pensez-vous de cette affiche? Est-ce que vous verriez malgré tout un favori?
C'est difficile de se prononcer, hein, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des équipes qui ont lâché un peu le championnat, qui se sont concentrées sur la compétition. Bah, il faut noter quand même que le Orlando Pirates a gagné déjà la Coupe de la Champions League, je crois, mm-hmm. africaine.
La Ligue
en
des 95, Champions
africaine. Il y a un bon moment. Hein. Et Ibengue, il essaie de la gagner pour une première fois avec son équipe. Ça va être un bon match. Et l'avantage qu'ils ont, peut-être, c'est le fait aussi d'avoir Florent Ibengue dans l'équipe, qui connaît vraiment l'Afrique, qui a été longtemps entraîneur, sélectionneur de la RDC.
Et donc, entraîneur du Vita Club. Donc,
exactement. Donc, il connaît vraiment les terrains. Il connaît les petits vis du côté africain. Est-ce que ça peut être un plus? Après, comme moi, je le dis toujours, l'entraîneur, il transmet. Les joueurs, est-ce qu'ils sont capables de produire ce que l'entraîneur transmet? Ça va se jouer sur le terrain, mais bien évidemment, c'est du 50-50.
Patrick?
Ouais, je pense que la RS Berkane est une équipe habituée à jouer des finales. Hein. Sur les quatre dernières éditions, ça sera sa troisième finale de cette épreuve. Elle en a gagné une en battant Pyramids, le club égyptien. Elle en a perdu une précédemment contre le Zamalek. Toujours des très grosses cylindrées. Les Orlando Pirates, au niveau africain, c'est aussi une très grosse cylindrée. Là, pour le coup, on a au moins une des deux équipes qui a vraiment un niveau Ligue des Champions. Hein. C'est pas les Glasgow Rangers. Là, on est les Pirates. C'est un gros club. Mmh. Franck Simon, vous en parlerez beaucoup mieux que moi. C'est un grand supporter, un grand suiveur de ce club. Et il était présent avec eux lors de la victoire en 95. Les boucaniers, enfin les pirates, quoi, les Bucks, comme on dit là-bas. Une équipe qui a tout concentré sur cette coupe. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Peut-être un petit avantage à la RS Berkane, parce qu'elle a sorti le TP Mazembe. Alors, c'est plus le grand TP Mazembe. Il y a une dizaine d'années, mais elle a fait une remontada pour ça. Elle a dû aller la chercher. On a parlé d'un arbitrage un peu gentil au match retour. Maintenant, c'est un terrain neutre. Donc...
Justement, dans les deux finales, on a un club marocain. Ouais. Et on sent quand même ce club. Ça fait plusieurs saisons que les Marocains disputent des finales de ces championnats. Bah
c'est un championnat, je pense qu'il y a vraiment des vraies locomotives dans le championnat marocain.
Il y a le Raja,
le Wydad, et maintenant la RS Berkane, rappelons-le, qui est le club du président de la fédération Fouzi Legja, qui est aussi ministre, qui est un homme puissant et influent. La Cité des Oranges, donc c'est quelque chose, je pense, Et aussi, le Maroc, c'est un pays qui a mis en place un système un peu comme l'équivalent du Clairefontaine français, où ils détectent des jeunes talents, ils les font monter.
Dirigé c'est par Nasser Berguet.
Maintenant, il va faire la même chose en Arabie Saoudite, d'ailleurs.
Exactement.
Donc, ils récoltent un peu ce qu'ils ont semé dans une ville comme Berkane, qui est une ville de vergers, c'est normal. Mais si vous voulez, je pense que ce n'est pas tout à fait le hasard. La Tunisie, c'est plutôt l'Espérance de Tunis et le reste nettement en dessous. Et l'Algérie, ça reste un championnat un petit peu... ça dépend un petit peu de l'État. C'est des clubs sous perfusion, souvent étatiques, avec des subventions. Donc, c'est très irrégulier. Donc, le Maroc a un petit coup d'avance au niveau de la structuration de son championnat professionnel. C'est récent, le professionnalisme. Ça fait une douzaine d'années, pas plus, en Afrique du Nord. Donc, Ça se met en place
leur
petit
championnat,
à petit.
Le Botola, là, fonctionne.
La Botola, oui,
bien,
c'est plutôt, je pense, le mieux huilé, en fait, le mieux organisé des trois d'Afrique du Nord.
En tout cas, il s'arrête pas, il continue, voilà. Et c'est intéressant. Ce qu'on a relevé dans cette finale, c'est qu'un arbitre a été désigné par la CAF.
Un très bon arbitre.
Et il s'agit... J'étais sûre que ça vous ferait réagir avant même, mais on le disait tout à l'heure, donc c'est le Zambien Jani Sikazwe.
Et il a aussi été sélectionné parmi des arbitres africains qui seront à la Coupe du Monde.
Possiblement. Il est sur la liste.
Il est sur la liste, absolument.
Alors, cet arbitre, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il est malheureusement tristement célèbre, on va dire. Hein, David, je vous vois sourire aussi.
Expliquez-nous, allez.
Vous vous souvenez, David? Eh bien, c'est un Tunisie-Mali qui s'est déroulé le 12 janvier dernier au Cameroun. Et avec ce monsieur au sifflet...
C'est comme si on arrêtait l'émission maintenant, voilà, et qu'on s'en allait et qu'on laissait 5 minutes de blanc, en fait.
Et on revenait plus tard.
Ouais, voilà. Enfin,
pour finir, alors quelqu'un d'autre prendrait le micro, d'ailleurs, vraisemblablement. Non, et alors, ce qui a toujours été bizarre, peut-être, Benjamin, dans cette histoire, c'est que la CAF, plus que lui, parce que Hervé Penaud nous assure qu'il a discuté avec lui et tout, mais que la CAF n'ait rien expliqué de cet incident, que même si, alors, il dit qu'il a eu un malaise.
Il a eu une insolation.
Une insolation.
Ça peut arriver, mais...
Et que, du coup, ça montre, il a mal vu et il a arrêté le match 10 minutes avant.
Il était un peu dans le coltard.
Et les Tunisiens étaient révoltés puisqu'ils perdaient, ils ont perdu ce match 1-0.
Non, mais moi, ce qui me dérange dans cette histoire, si on revient, c'est même pas le fait que l'arbitre, il a eu une insolation, parce que ça n'a pas arrivé.
Bien sûr.
Mais le problème, c'est qu'il y a un arbitre qui est sur le terrain. Et vous avez quand même le quatrième arbitre, vous avez des assistants. Et il n'y a personne à un moment donné qui réagit. Ils attendent de repartir dans le vestiaire.
Et se dire,
il manque 5 minutes, on va revenir jouer. Mais je trouve que c'est pas possible.
Un arbitre qui a une blessure ou un empêchement physique ou autre, il est prévu qu'il puisse être remplacé.
Exactement.
Et là, la CAF
a été remplacée pour les 5 dernières minutes.
Oui, mais c'est quand même...
Puis avoir arrêté,
ça a donné une très mauvaise image.
En début de compétition, oui.
Ouais, c'est tout. Maintenant, le mal est fait,
allemande.
Non, pour faire écho à la finale d'hier soir, un arbitre, il n'est jamais aussi bon que quand il ne se passe rien pendant un match. Donc, si c'est lui qui prend le...
S'il est transparent, alors là, pratiquement.
Oui, voilà, exactement. Alors là, si c'est lui qui est la vedette... Non, mais après, c'est un événement particulier. Moi, je n'ai pas plus d'infos que ce que vous venez de décrire. Voilà. Il ne va pas le refaire.
Après, on avait eu le cas inverse à la Coupe arabe de la FIFA, où l'arbitre de Algérie-Qatar, le Polonais Simon Marcignac, avait laissé 17 minutes en plus en fin de match. Il y a parfois des petits problèmes au temps chez les arbitres, visiblement.
Après, Annie, moi, je pense que, bon, c'est vrai qu'on tire beaucoup en ce moment sur les arbitres et machin. Bon, moi, on ne va pas en rajouter. Je trouve que quelque part...
C'est le choix pour une finale.
C'est des humains aussi, ils ont le droit de se tromper.
Non, mais Benjamin,
c'est le mécanisme qu'il y a autour qui pose question.
Ce qui est curieux, c'est qu'en fait, moi, on peut plaider la thèse de l'accident et dire il a eu une insolation et donc il est passé à côté, c'est possible.
C'est l'explication
officielle. Et on l'accepte. Mais c'est bizarre que la CAF ne se doute pas que pour des questions d'image, on ne parle que de ça si elle nomme cet arbitre. Donc peut-être que d'autres auraient pu prendre sa place et ça n'aurait pas fait autant de vagues. Parce que maintenant, si ça se passe mal...
Exactement.
Les dirigeants des deux clubs, les joueurs vont dire regardez, c'est normal que ça se passe mal, regardez qui nous ont mis comme arbitre. Donc
ouais, mais quoi qu'il arrive, à la fin de ce match, il y aura une équipe qui aura perdu et probablement qu'est-ce qui se passe
quand il faut voir les conditions de la défaite
en général. On accuse souvent l'arbitre.
Oui, mais
c'est... on oublie qu'il y a deux semaines auparavant, peut-être qu'il vous a accordé un pénalty qui n'existait pas.
Ah ben ça, on l'oublie.
C'est on n'a pas de mémoire. C'est pas faux.
Bon, en tout cas, bonne finale à ces deux clubs, le RS Berkane, la RS Berkane.
Comme Renaissance sportive.
Ouais, Renaissance sportive, exactement. Et les Orlando Pirates, les Bucks de Soweto. Hein,
les Bucks, ouais, de Soweto.
C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, messieurs.
Merci.
À demain.
Merci.